VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Corne de l'Afrique, attentat ce lundi à Mogadiscio en Somalie. Au moins 5 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un véhicule piégé près d'un point de contrôle situé sur la route d'accès à l'aéroport de la capitale. Il y avait beaucoup de gens dans la zone et plusieurs personnes ont été tuées ou blessées dans l'explosion. Mais nous n'avons pas encore le nombre exact de victimes, a déclaré un responsable sécuritaire présent sur place, Abdoulaye Ahmed. Violence au Mali, le Royaume-Uni a annoncé ce lundi le déploiement de 250 militaires britanniques dans le pays pour 3 ans à partir de 2020 dans le cadre de la MINUSMA, la mission de paix de l'ONU sur place. Ces soldats seront basés à Gao dans le nord-est à l'appel de l'ONU et en reconnaissance de l'instabilité croissante dans la région du Sahel, a précisé le ministère britannique de la Défense dans un communiqué. Et puis au Burkina Faso, le Premier ministre Christophe-Marie-Joseph Dabiré a évoqué avec 2 confrères de la presse locale plusieurs sujets d'intérêt national. Notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon, nous résume ce face-à-face.
C'est un Premier ministre globalement à l'aise qui s'est exprimé 1 heure durant sur plusieurs dossiers dominés par l'insécurité, la cohésion sociale et les questions de gouvernance d'une manière générale. Questionné sur l'affaire des 11 détenus décédés à l'unité antidrogue de la police nationale, le Premier ministre a promis l'accompagnement des familles des victimes en attendant la fin des enquêtes. Christophe Dabiré qui a insisté côté sécurité sur l'importance du G5 Sahel dans le dispositif de riposte aux terroristes avant de botter en touche sur la sortie du ministre burkinabé de la Défense qui dénonçait la duplicité supposée de la France dans la lutte contre les djihadistes, mais aussi des propos du général français Lecointre qui lie la survie des pays du Sahel à la force Barkhane. Concernant la corruption, le Premier ministre a promis de renforcer les capacités de l'autorité supérieure de contrôle d'État pour la rendre plus efficace. Il s'est voulu aussi pédagogique sur la réduction du train de vie de l'État avant d'insister sur l'importance du dialogue pour résoudre les crises avec les partenaires sociaux. Christophe Dabiré a salué la participation de l'opposition au dialogue politique national dont tous attendent beaucoup afin de résoudre les grandes questions qui secouent le pays. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
En France, interpellation ce lundi à Rouen d'un suspect de nationalité turque concernant l'agression dans la banlieue de la métropole de Normandie vendredi dernier qui a coûté la vie à Mamadou Bari, un enseignant-chercheur guinéen. D'après un proche de la victime, le chercheur de 31 ans a été pointé du doigt par son agresseur et il aurait été la cible d'insultes racistes à la hauteur d'un arrêt de bus alors qu'il rentrait chez lui en voiture avec son épouse. L'agresseur l'aurait ensuite frappé à coups de poing et de bouteille. Pour leur part, des sources policières révèlent que le détenu né en 1990 a des antécédents psychiatriques. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
De sources policières, Mamadou Bari, 31 ans, a été agressé à Canteleu, dans la banlieue de Rouen. Pris en charge par les secours, il a été hospitalisé à Rouen, où il est mort samedi. Selon son université, il a été victime d'une agression verbale, puis physique, d'une extrême violence, qui lui ont causé des lésions cérébrales et l'ont mis dans un coma profond dès la soirée du 19 juillet, alors qu'il rentrait chez lui en voiture avec sa femme. Ses proches ont qualifié l'agression de raciste. Le procureur de Rouen, Pascal Prache, a confirmé que les investigations étaient en cours. Chercheur à l'université de Rouen, Mamadou Bari venait de soutenir une thèse de droit sur les politiques fiscales et douanières en matière d'investissement étranger en Afrique francophone le 27 juin dernier.
Au Nigeria, la police fait état ce lundi de l'enlèvement de 4 ressortissants turcs samedi dans le centre du pays. Le tout dernier incident du genre enregistré dans le géant de l'Afrique de l'Ouest où les kidnappings pour rançon sont courants. Selon le porte-parole de la police nationale, Frank Mba, des hommes armés ont pris d'assaut un bar du village de Gbale dans l'état de Kwara et sont partis avec 4 captifs, des Turcs travaillant pour une entreprise de construction. Les enlèvements pour rançon sont fréquents au Nigeria, en particulier il est dans le sud du pays, riche en pétrole, et dans le nord-ouest, où des centaines de personnes de toutes catégories sociales et origines ont été enlevées depuis le début de l'année. Les victimes seront généralement libérées quelques jours ou semaines après l'enlèvement, bien que la police confirme rarement le paiement d'argent aux ravisseurs. La semaine dernière, 10 marins turcs ont aussi été enlevés sur un cargo au large du Nigeria.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, mort d'une personne ce lundi lors d'un échange de coups de feu entre forces de sécurité et des occupants d'une ferme soupçonnés d'héberger des auteurs présumés de l'assassinat d'un chef coutumier de la province du Sankoro dans le centre du pays. Selon une source policière qui a requis l'anonymat, ces suspects ont été faits prisonniers lors de cette opération policière à l'aube à 25 km à l'est de la ville de Lodja. Les détenus appartiendraient à une milice dirigée par un certain Omindo, alias Omera, responsable de la mort du chef coutumier vendredi dernier. Le calme règne dans la province du Sankoro après l'élection sous tension samedi du nouveau gouverneur Joseph Stéphane Bonko Madi, qui a battu Lambert Mende, ancien ministre et porte-parole du régime de l'ex-président Joseph Kabila. Monsieur Mende est une des 14 personnalités congolaises sous sanction de l'Union européenne pour entrave au processus électoral dans les deux dernières années du régime Kabila. Le Sankoro était la dernière des 26 provinces de la RDC où l'élection du gouverneur n'avait pas eu lieu.
Le général Silvano Kasongo, chef de la police, a instruit les forces de l'ordre de prendre des mesures idoines. Toute personne qui osera marcher ou troubler l'ordre public pendant cette semaine va trouver la police sur son chemin, a-t-il fait savoir à la télévision nationale. L'escalade a commencé mardi lorsque des jeunes du parti du président Tshisekedi, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, ont annoncé pour aujourd'hui une marche contre la candidature de l'ancien ministre de la Justice, Alexis Tambwe, considéré comme un dur de l'ancien régime, à la présidence du Sénat. En réaction, les jeunes pro-Kabila, les Bérets Rouges, ont promis eux aussi d'organiser ce même lundi une contre-marche pour soutenir la candidature de l'ancien garde des Sceaux à la présidence du Sénat, en brandissant une autorisation du gouverneur de Kinshasa, un pro-Kabila. Le Sénat est contrôlé par des partisans de M. Kabila. Le ticket présenté par le FCC pour les 7 postes du bureau du Sénat ne compte aucun membre de CAP pour le changement, cache la coalition du président Tshisekedi. Cette dernière a signé un accord de coalition avec le Front commun pour le Congo, FCC de l'ancien président Kabila, largement majoritaire à l'Assemblée nationale, aux assemblées provinciales et au Sénat. 6 mois après l'investiture du président Tshisekedi et plus d'un mois après la nomination de son premier ministre Ilunga Ilunkamba, proposé par l'ancien président Kabila, les négociateurs de CACH et du FCC peinent à se mettre d'accord sur la composition du gouvernement.
Il s'agissait de Jean-Roger Bion qui nous parlait de la décision des autorités de Kinshasa d'interdire l'organisation cette semaine de toute marche politique dans la capitale à cause du climat tendu entre les partisans du président Félix Tshisekedi et ceux de son prédécesseur Joseph Kabila. Au Kenya, arrestation ce lundi du ministre kenyan des Finances, Henry Rotich, et de plusieurs responsables de son ministère pour corruption et fraude en rapport avec un projet de construction de 2 barrages d'une valeur de plusieurs millions de dollars. C'est ce qu'a annoncé la police. Le chef de la police kenyane, George Kinoti, précise que les suspects se sont rendus de leur propre chef aux autorités après que le directeur des poursuites publiques, Nordin Haji, eut un peu plus tôt demandé leur arrestation. Actualité hors d'Afrique maintenant, à Hong Kong, une nouvelle manifestation anti-Pékin a dégénéré en fin de journée dimanche. La police a tiré des balles en caoutchouc pour disperser les protestataires. Yakuba Odraogo.
Pour le 7e week-end d'affilée, les manifestants anti-gouvernementaux ont défilé dans les rues de Hong Kong. Selon les organisateurs, près de 430 000 personnes ont participé à la marche de dimanche. La manifestation a débordé jusqu'au bureau de liaison chinois représentant le gouvernement de Pékin sur lequel les protestataires ont jeté des œufs et inscrit des graffitis. Dans la soirée, la police anti-émeute a fait usage de gaz lacrymogène et tiré des balles en caoutchouc pour disperser des groupes de protestataires. Depuis le 9 juin, Hong Kong est le théâtre de manifestations contre le gouvernement local pro-Pékin, marqué souvent par des affrontements entre des contestataires radicaux et la police. Le mouvement est parti d'un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine. La contestation s'est élargie à des exigences plus vastes concernant la préservation des acquis démocratiques et des libertés, en particulier l'indépendance de la justice.
Et actualité américaine, pour terminer, les États-Unis veulent que les gens restent dans leur pays. C'est ce qu'a déclaré dimanche à San Salvador le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, à l'issue d'une tournée qu'il a menée auparavant en Argentine, en Équateur et au Mexique. La coopération entre les États-Unis et le Salvador va se renforcer à tout point de vue pour lutter contre l'immigration illégale, a souligné M. Pompeo et le chef de l'État salvadorien.